Bonsoir, vous écoutez Radio Campus Tour 99.5 et l'émission ABC des Vegues, l'émission consacrée à la cause animale et à l'alimentation végétale. Au programme de ce 37e numéro, nous vous proposons d'écouter une intervention de Jean-Marc Gansil, enregistrée lors de son passage à Tours à la librairie Rosemonde le 22 mars dernier, dans le cadre de la sortie de son livre « Comment l'humanité se viande », livre qui démontre à quel point l'alimentation carnée est un désastre écologique. Jean-Marc Gansil, pour le présenter, est engagé de longue date en faveur de la cause animale et dans différents mouvements animalistes. Il est actuellement membre de l'ONG scientifique Globice, qui agit en faveur de la conservation des cétacés chez lui à La Réunion. Il est aussi membre de la REV, Révolution écologique pour le vivant. Lors de cet enregistrement, vous pourrez aussi entendre Betsabe Haas, adjointe à la mairie de Tours, déléguée à la biodiversité et à la condition animale, que vous avez déjà pu entendre dans l'émission, et qui était venue débattre avec Jean-Marc Gansil à la librairie Rosemonde. Eh bien, bonne écoute.
Bah écoutez, merci de m'accueillir. Je suis ravi d'être là. C'est la dernière étape de ma tournée promotionnelle pour ce nouvel ouvrage. J'ai fait 15 jours assez intenses. Je suis ravi de terminer ici et de ponctuer ce moment qui est toujours riche parce que ça permet d'enclencher des discussions et d'approfondir certains des thèmes que j'ai creusé dans cet ouvrage. C'est, comme tu le disais tout à l'heure, mon troisième, qui sont tous un peu, on va dire, sur le même mode, et qui est celui d'une certaine forme de lucidité que je revendique. Alors, ça fait prétentieux de dire ça, c'est pas moi qui ai la vérité, bien sûr, mais j'ai fait un gros travail de recherche, de bibliographique, scientifique, un gros travail, on va dire, de compilation d'informations et de données pour essayer de rendre compte de ce que je perçois, de l'intuition que j'ai sur certains sujets, pour les rendre très objectifs, le plus objectif possible, le plus rationnel possible, parce qu'il m'apparaît souvent que dans la sphère écolo dans laquelle je suis et dans laquelle j'œuvre depuis un certain temps, il y a un certain nombre d'illusions qui nous maintiennent dans des représentations, des imaginaires, qui nous empêchent peut-être d'aller au-delà de ce que nous parvenons à faire jusqu'à maintenant, c'est-à-dire pas assez. Voilà. Et j'ai le sentiment que se mettre face à une réalité qui est parfois dure peut être une façon, pour certains en tout cas, de prendre conscience de certains sujets et de prendre à bras-le-corps des enjeux qui, à mon sens, sont majeurs. Voilà. Donc l'idée de ces trois essais, le premier s'appelait « Ne plus mentir », porte bien son nom. Le second, « Carnage », et le troisième, « Comment l'humanité se viande », je les vois un peu comme une trilogie. Qui répondent à cette volonté, à cette exigence, certaines formes d'intransigeance aussi, que certaines personnes considéraient de la radicalité presque binaire, mais je le revendique. La vocation, c'est aussi de provoquer un peu pour susciter dialogue, controverse, dissensus. C'est aussi comme ça qu'on avance. Et voilà, en tout cas, c'est un petit peu ma marque de fabrique, donc certains apprécient, d'autres un peu moins, mais c'est ma façon d'être. Deux petits mots sur mon parcours. Moi, j'ai fait des études de commerce, de gestion, donc qui ne me prédisposait pas forcément à œuvrer dans le champ de l'écologie, mais j'ai à chaque fois réussi, au travers de mon parcours, à donner du sens aux différents postes que j'ai occupés, pour y injecter notamment de la responsabilité écologique et sociale. J'ai beaucoup œuvré dans l'économie sociale et solidaire, je ne vais pas vous faire toutes les étapes, mais l'une des plus importantes d'entre elles, ça a été de créer un lieu à Bordeaux qui s'appelle Darwin, dont certains ont peut-être entendu parler, qui est un tiers-lieu assez foisonnant dans lequel on a essayé de concrétiser notre utopie d'une ville plus résiliente, plus durable, plus sobre, avec un certain nombre d'activités qui incluaient systématiquement cette exigence écolo. Et j'étais en charge notamment de cette transition dans ce lieu qui fait aujourd'hui 5 hectares en plein cœur de Bordeaux et qui est le deuxième lieu le plus visité de la ville, qui draine énormément de monde. Qui s'est peut-être un peu institutionnalisé depuis un certain temps, mais qui continue à remuer les idées. Voilà. Et c'est dans le cadre de cette formidable initiative que j'ai aguerri mes convictions et que je suis notamment tombé dans le combat animaliste, qui aujourd'hui m'occupe particulièrement, et que j'ai décidé, au bout d'un certain nombre d'années, de switcher pour m'y consacrer totalement. Donc j'ai quitté Bordeaux en 2018 pour rejoindre l'île de la Réunion, où je travaille depuis maintenant 5 ans dans une ONG scientifique d'études et de protection des cétacés. Donc je suis un peu le Paul Watson de l'étape. En fait, elle n'est pas militante comme les Sea Shepherd, mais elle est basée sur la connaissance et sur la médiation avec les populations, avec les chercheurs de la zone océan Indien, pour amplifier les efforts en faveur de la protection de ces animaux, qui pour la plupart d'entre eux sont des espèces, enfin pour tous sont des espèces protégées, et pour certaines en grand danger. Voilà. Et ben, je m'éclate, c'est super, et ça me permet de mettre en cohérence à la fois mes convictions et mes actes au quotidien dans le cadre de cette activité. Néanmoins, j'ai aussi une activité d'auteur, celle dont on va parler ce soir, qui, au travers de cette trilogie, vise à remuer un peu le monde écolo dont je m'estime totalement partie prenante, qui me semble sur certains enjeux, et notamment sur celui, on va dire, de l'alimentation carnée, ne pas avoir pleinement saisi l'ampleur de la question. Et l'objectif de cet ouvrage, c'est de faire un état des lieux très exhaustif des dégâts que j'estime gigantesques que cette forme d'alimentation carnée, majoritairement carnée dans le monde, génère dans la biosphère terrestre et marine, de débunker un certain nombre d'idées reçues dans lesquelles on est toujours englué et qui nous empêchent peut-être de prendre la pleine mesure de ce qui se trame et d'agir en conséquence, et puis d'esquisser des pistes et des hypothèses assez générales pour changer les choses. Donc, j'aime poser toujours une petite question parce que ça donne un petit peu le ton. Est-ce que vous savez l'espace qu'occupent les activités humaines sur la surface terrestre émergée? Pour ceux qui le savent, laissez certains y réfléchir. Donc, nos activités humaines artificialisées, nos infrastructures, nos autoroutes, nos entrepôts, nos villes, nos maisons, nos habitations, d'après vous, sur la surface terrestre émergée, donc pas les océans évidemment, c'est combien de pourcents d'occupation? Vous avez une idée? Allez, lancez-vous.
Beaucoup.
Beaucoup? Vas-y, dis. Un chiffre?
70.
70%?
Ouais. 98.
Oh non.
Non.
Voilà, c'est 1%. Donc l'ensemble des activités humaines, on va dire des constructions, du béton, des routes, si on les agglomérait ensemble, ça serait 1% de la surface terrestre. Donc c'est très loin de la représentation qu'on peut avoir et des discours qu'on a généralement de l'emprise, on va dire, de cette artificialisation. Je ne dis pas que ce n'est pas un problème en soi. Hein. Mais... Non. Non, mais voilà. Mais en tout état de cause, c'est extrêmement marginal. Maintenant, l'élevage. L'élevage, c'est-à-dire essentiellement les ruminants, puisque ce sont eux qui sont à l'air libre. Malheureusement, beaucoup d'autres animaux que nous consommons, enfin que certains consomment, sont dans des bâtiments concentrationnaires, dans des élevages intensifs, et ne voient pour certains, et pour beaucoup d'entre eux, pas la lumière du jour. Mais pour ce qui est des ruminants, en règle générale, ils sont massivement dehors. D'ailleurs, ça va un peu à l'encontre de l'idée qu'on a. C'est-à-dire, souvent, on parle souvent de la ferme des 1000 vaches, on a l'impression que beaucoup de bovins, notamment, sont parqués. Ce n'est pas le cas, c'est une minorité. À l'échelle mondiale, c'est à peu près 10%. Voilà. Donc l'ensemble de ces bovins, il faut bien les nourrir aussi. Donc ils peuvent se nourrir à l'herbe, mais une partie d'entre eux sont sur pâturage, mais d'autres sont en partie sur pâturage, mais également dans des systèmes mixtes où ils sont, comme on dit joliment, finis au grain. C'est-à-dire qu'ils vont manger des céréales, souvent du soja, mais pas uniquement. Et donc ça, cet espace, c'est 90% des bovins qui l'occupent. C'est-à-dire à la fois les pâturages et les cultures fourragères nécessaires à leur alimentation. Donc là, je repose la même question. L'ensemble de cet espace occupé par le bétail, en tout cas les ruminants et les cultures fourragères, d'après vous, c'est combien d'espaces terrestres? J'ai dit les activités humaines, c'était 1%. Donc là, l'élevage pour vous, tout espace confondu?
70.
C'est un peu... 30. C'est 30%. Donc c'est 30% de la surface terrestre, c'est énorme, c'est un tiers de tout l'espace disponible pour vivre, toutes espèces confondues, la nôtre également, qui est accaparée par l'élevage. C'est, métaphoriquement, en termes d'analogie plutôt, c'est l'ensemble des Amériques, nord, latine, sud, toutes les Amériques, c'est le bétail et les cultures pour le nourrir, exclusivement pour les humains, et je rappelle, comme vous le savez, que ces protéines animales ne nous sont nullement indispensables. et qu'aujourd'hui, on sait pertinemment, et de nombreuses sociétés de nutrition et d'études ont, on va dire, validé l'idée que nous pouvons très bien nous porter en bonne santé et être parfaitement tonique avec une alimentation exclusivement végétale. Voilà. Donc, on accapare un espace incroyable, on gaspille des ressources phénoménales, on égorge une quantité astronomique d'animaux, tout ça pour des ressources, tout ça pour une protéine qui ne nous est nullement indispensable. Et ce faisant, ben, tout l'espace qu'on a accaparé, c'est celui qui était réservé ou en tout cas occupé par d'autres espèces. Donc l'impact sur la biodiversité est colossal. On entend parfois que l'élevage sur pâturage est quelque chose d'assez vertueux. C'est absolument faux, puisque tous ces pâturages sont généralement créés, ont été créés dans l'objectif effectivement d'y installer de l'élevage, et qu'on a déforesté massivement pour les y installer, c'est bête, mais qu'on a aussi déforesté massivement, et vous le savez, notamment l'Amazonie en est l'une des victimes principales, on a déforesté massivement pour créer de la monoculture fourragère pour ces animaux. À titre d'exemple, enfin à titre de référence, on dit souvent, oui, l'huile de palme, horrible, ça déforeste, horrible. On entend beaucoup parler de ça. Et effectivement, les oléagineux, c'est 18%, je dirais, de la déforestation tropicale. L'élevage, c'est 41%. Donc on est dans un rapport quasiment de, peut-être pas de 1 à 3, mais presque. Et cet aspect-là, il est souvent assez invisibilisé. On ne se rend pas compte de tout ça. Donc, ce que j'ai voulu montrer dans l'ouvrage, je ne vais pas tout vous dire, parce que sinon, ça serait, j'aurais plus intérêt à le lire, mais globalement, je décris par le menu cet accaparement de l'espace, ce gaspillage de ressources, sachant que les ruminants mangent aussi des ressources qui sont comestibles pour les humains, pas uniquement. Une grande partie de ce qu'ils mangent n'est pas comestible pour les humains, mais une partie de ce qu'ils mangent l'est totalement. En gros, les ruminants, globalement, si on agglomère tout ce qu'ils vont consommer, il faut 3,2 kilos de, on va dire, de végétaux comestibles par l'homme pour les ruminants. Et il faut 2,8 kilos de céréales comestibles ou de végétaux comestibles par l'homme pour les monogastriques, les poules, les cochons, tout ça. Donc c'est autant de ressources que finalement on gaspille et qui pourraient être aussi énergétiques pour nous. Voilà. Bien sûr, les ruminants ont un système digestif qui est ce que vous savez, c'est-à-dire la fermentation entérique qui génère énormément de méthane, et l'ensemble de ces bêtes vont participer de façon colossale au réchauffement climatique. Il y a des querelles d'experts pour savoir à quelle échelle on réchauffe l'atmosphère en raison de cette activité anthropique, puisque c'est l'humain qui l'a créé. Eh bien, aujourd'hui, si l'ONU s'arrête, la FAO, l'Agence mondiale pour l'alimentation, s'arrête sur le chiffre de 14,5, il est assez controversé, parce qu'il ne tient pas compte du pouvoir réchauffant de ces gaz méthane et protoxyde d'azote qui est émis par les déjections des ruminants, qui sont l'un 80 fois plus réchauffant que le CO2 sur 25 ans, et l'autre 257 fois plus réchauffant que le CO2 aussi sur une courte période de temps. Donc, on a là un effet majeur, sans compter le coût d'opportunité, c'est-à-dire les puits de carbone qu'on a éliminés en raison de l'accaparement de l'espace dont je vous parlais, et qui ne servent plus de puits de carbone, mais plutôt de source, parfois, lorsqu'ils sont surpâturés. Voilà. Donc on a là un phénomène normalement qui explique que les gaz à effet de serre qu'on génère au travers de cette activité sont parfois estimés jusqu'à 51% de l'ensemble des émissions humaines. Bon, ce chiffre a été évoqué à un moment donné par certains scientifiques, il a été remis en question. Généralement, on s'accorde aujourd'hui à 14,5, mais c'est quand même énorme. Et ces 14,5, c'est déjà trois fois plus que l'aérien. Alors qu'on stigmatise souvent et on pointe souvent du doigt l'aérien comme étant l'une des problématiques majeures auxquelles on a à faire face. Mais le levier qu'on pourrait avoir en changeant d'alimentation est bien, bien supérieur à celui qu'on aurait en cessant le transport aérien. Donc c'est toute cette invisibilisation de ces dégâts. Il y en a d'autres sur la ressource en eau, sur les pollutions liées aux déjections, notamment dans les élevages intensifs, qui sont l'objet de ce réquisitoire, puisque j'ai le sentiment qu'ils ne sont jamais ou pas suffisamment pris en compte, en tout cas pas assez précisément, et pas assez mis dans l'espace public comme étant des problématiques majeures. Et au lieu de ça, on a tendance à véhiculer, de mon point de vue, des idées reçues, ou en tout cas des lieux communs qui tiennent lieu de vérité et qui maintiennent, on va dire, nos représentations dans dans l'idée que certaines formes d'élevage ou de pêche, j'y reviendrai, sont tout à fait soutenables, ou en tout cas acceptables, respectueuses même, voire même vertueuses, au regard de certains de ces enjeux. Et c'est ce que parfois je reproche à mes amis écolos, d'entretenir un certain nombre de mythes que je débunk ici, et que je ne vais pas tous vous décrire, mais je vais en parler d'un ou deux, qui me semblent extrêmement contre-productifs pour notre combat commun. Notamment, par exemple, le mythe du petit élevage paysan. On entend souvent, et notamment encore récemment dans la bouche d'écolos influents comme Hugo Clément, le fait que l'élevage paysan, c'est chouette, quoi, en fait. Hein, manger moins mais mieux, c'est-à-dire reporter votre consommation sur du petit élevage paysan. Mais lorsqu'on sait scientifiquement qu'un ruminant élevé sur pâturage émet jusqu'à 2 fois plus de méthane qu'un ruminant élevé en intensif, ça c'est scientifique, ça pose pression. Alors par tête de bétail, hein, si j'ose dire. Super. Donc par tête de bétail. Donc effectivement, là on ne parle pas de la masse des animaux consommés, mais comme je vous l'ai dit, la plupart d'entre eux sont en pâturage ou en système mixte fini au grain. Donc là on a, ça c'est dans le pire des cas, 2 fois plus d'équivalent CO2MI, mais j'ai plusieurs études dont j'ai mentionné les références, qui disent qu'on est à 40 ou 42% d'émissions en plus. Donc ça, c'est un vrai problème. Et du coup, le fait de le présenter comme un mieux est donc un mensonge. De la même façon, on nous présente la petite pêche artisanale comme étant durable, et il faut donc se reporter sur le poisson pêché respectueusement par nos petits pêcheurs. Or, lorsqu'on regarde les chiffres globaux de la pêche, de capture, comme on dit, de poissons sauvages, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'en gros, depuis un certain nombre d'années, on extrait de l'océan 90 millions de tonnes de poissons. C'est plusieurs milliers de milliards de poissons sentients, donc qui ressentent de la souffrance aussi. C'est pas mon propos, mais je le dis au passage, qu'on extrait de l'océan pour des besoins alimentaires, qui, là aussi, pour une majorité d'humains, pas tous, ne sont pas indispensables à notre équilibre alimentaire. Et on extrait ces poissons en déstabilisant des écosystèmes hyper importants, je dirais pour les services écosystémiques que nous rendent ces espaces, ces milieux. Et sur ces 90 millions de tonnes, qui sont assez constantes depuis un certain nombre de temps, elles le sont aussi parce que la flotte de pêche s'est renforcée pour aller chercher toujours plus loin, toujours plus profond, pour assurer cet approvisionnement. Eh bien, on constate que sur ces 90 millions de tonnes, un tiers est pêché par la pêche industrielle, les fameux bateaux qu'on décrit souvent comme étant, comme ravageant avec leurs engins de pêche les océans, et c'est une réalité, il faut la dénoncer, c'est catastrophique, mais un tiers équivalent, c'est-à-dire 30 millions de tonnes, c'est la pêche artisanale. Voilà, exactement pareil. Pour l'alimentation humaine, pêche industrielle et pêche artisanale ravagent autant l'un que l'autre les océans, pour le même nombre de volumes de poissons pêchés. Vous allez me dire, oui, mais il manque un tiers. Là, effectivement, le tiers restant, et d'ailleurs, attends, je termine avant de parler du tiers restant, la pêche, la mer la plus surpêchée, c'est la mer Méditerranée. Il n'y a aucun bateau industriel. C'est que de la pêche artisanale. Comme quoi, elle fait sa part du carnage. Dernier tiers, c'est effectivement l'industriel, mais les poissons qu'on pêche, c'est ce qu'on appelle de la pêche minotière, du poisson fourrage, qui est destiné à qui ? Aux élevages, aquacoles ou au bétail, qu'on nourrit avec des farines animales, pour une consommation qui n'est nullement indispensable à notre équilibre alimentaire. Et on ravage les mers, les océans, et on ravage les écosystèmes et les milieux sauvages, au point qu'aujourd'hui, la biomasse des mammifères terrestres sauvages ne représente plus que 4% de l'ensemble des mammifères. Le reste, c'est nous les hommes et nos animaux de rente. On est à 4%. Voilà. Donc, je plaide pour que ces formes prétendument respectueuses du vivant ne le soient plus considérées comme telles, dans la mesure où on voit qu'elles participent à leur mesure, en synergie avec les activités industrielles, au même carnage et à la même impasse, globale. Voilà. On peut aussi parler du locavorisme, qui est souvent mis en avant dans les milieux écolos, mais en règle générale dans la société. Ça a des vertus, être en lien avec son petit producteur, mieux comprendre la façon dont il travaille, participer à une économie locale, c'est évidemment positif, mais d'un point de vue écologique, ou en tout cas des émissions de gaz à effet de serre, ça a un effet quasiment marginal. Le poids du transport dans les émissions carbone est au maximum de 10%. Il est le plus souvent de 4%, en moyenne. pour les aliments qu'on va consommer et qu'on va importer. Par exemple, si vous comparez sur Agribalise, le site de l'État, qui compare justement les émissions des différentes formes d'aliments qu'on peut consommer, qu'elles soient végétales ou qu'elles soient animales, vous vous rendez compte que vous l'ayez acheté au Brésil ou en France, votre poulet, d'un point de vue des émissions de gaz à effet de serre, il n'y a quasiment pas de différence. Parce que ben, dans la masse du transport que ça occasionne, par aliment, c'est négligeable. Et là aussi, quand on pose la question aux Français de savoir quels sont les premiers gestes à faire pour avoir une forme d'exemplarité écologique, ou en tout cas d'effort qui soit significatif, eh bien malheureusement, c'est souvent ces arguments-là qui sont cités, mais on voit que, rationnellement parlant, ce n'est pas les plus opérants. Voilà. De la même façon, on a aussi tout un discours sur le vivant, des philosophes comme notre ami Baptiste Morisot, qui sont dans des représentations qui me semblent extrêmement contre-productives aujourd'hui par rapport à la question que je soulève, en amalgamant ce qui est traditionnel et naturel, survalorisant des pratiques de consommation d'animaux empreintes aux peuples, on va dire, indigènes, ou des peuples premiers, où effectivement il y a une espèce de respect qui est dû à l'animal, on ingère ce corps de l'animal dans le fameux cycle du vivant dont il parle régulièrement, et qui est une cosmogonie qui est celle effectivement de ces peuples premiers, mais dans laquelle il est difficile de se comparer vu les modes alimentaires qui sont les nôtres, mais pour autant ils tiennent lieu de référence à des philosophes comme ceux-là, qui du coup véhicule une forme de légitimation de pratiques d'élevage et de pêche, qui de la façon dont nous les sollicitons, n'ont absolument rien de comparable, mais qui entretiennent une forme de légitimité de ces pratiques et presque d'innocuité de leur impact, en tout cas à la mesure de ce que je constate de leur effet sur la planète. Donc évidemment, tout ça, c'est des choses que je décris, que je critique, qui me semblent excessivement spécistes, donc qui traitent les animaux non humains le plus souvent comme des ressources, comme des stocks, comme des objets à notre usage exclusif, dont on dispose selon notre bon vouloir, sans tenir compte de leur valeur intrinsèque, de leur droit à vivre paisiblement leur vie. Et ça pose la question animaliste sous-jacente, qui, à mon sens, n'est pas suffisamment prise en compte aujourd'hui dans les milieux écolos, notamment chez les écologistes ELV, qui, bien qu'ils aient reconnu la sentience comme étant un élément important dans leur dernière plateforme programmatique, ou en tout cas plateforme de valeur, je ne sais pas exactement comment on la nomme, n'est pas mise en pratique, puisqu'on a encore vu Marine Tondelier et d'autres écolos valoriser ces formes d'élevage au salon de l'agriculture, ou aller en soutien des petits pêcheurs locaux, ce qui me semble ne pas aller dans le sens de l'histoire que j'aimerais voir advenir, à savoir celle d'un respect véritable du vivant et de l'abandon progressif, ça ne sera pas du jour au lendemain, d'une forme de consommation qui est gravement attentatoire aux conditions d'habitabilité de la planète. Donc voilà le propos, et puis derrière ça, je formule des propositions, mais qui sont déjà sur la table depuis longtemps. Malheureusement, les pouvoirs publics, le gouvernement actuel, y est très largement hostile, parce qu'il cède et renonce dans les grandes largeurs à tout ce que lui impose par la violence, souvent, et en tout cas par l'intimidation des milieux extrêmement durs dans leurs revendications. On l'a vu avec la dernière séquence de la colère des paysans. Et tout ce qui aurait été souhaitable, en tout cas tout ce que des agences sanitaires, des ONG ou des partis politiques, plus conscientisés sur ces sujets, réclamaient, a été abandonné. Et aujourd'hui, le plan de souveraineté de l'élevage, ou en tout cas les plans de soutien à ces filières carnées, ont ouvert toutes les vannes à leurs revendications. Donc la diabolisation des substituts alternatifs, l'arrêt de la réduction volontariste des cheptels, aucune mesure, de quota ou de taxation des produits carnés qui puisse inciter à une consommation végétalisée, la diabolisation des écolos, ça on connaît, et elle se porte également sur les milieux animalistes, et c'est pas nouveau. En tout cas, tout l'arsenal de mesures qui a été récemment pris par le gouvernement va globalement totalement à l'encontre de ce qu'on pourrait souhaiter. Voilà. Donc ça, c'est pas la bonne nouvelle. On pourra en discuter. Comment sortir de là? J'ai pas non plus beaucoup de solutions, puisqu'on est dans une situation de blocage. Mais au regard du souhaitable, au regard du scientifiquement prescrit, on se dit qu'on est vraiment bien loin de ce qu'il faudrait. Donc évidemment, le rapport de force, il va falloir l'engager d'une manière ou d'une autre, faire feu de tout bois, essayer de porter au pouvoir des gens beaucoup plus, on va dire, conscients de ces enjeux-là, de ces sujets, et faire en sorte qu'on arrive à progressivement faire comprendre que l'enjeu, c'est pas simplement de laisser les énergies fossiles, en tout cas les hydrocarbures dans le sol, ce qui est absolument indispensable, je ne le mets pas en cause, mais je fais mien les propos notamment dans l'introduction de cet ouvrage, les propos de Georges Monbiot, qui est un écolo, journaliste d'investigation, éditorialiste au Guardian, bien connu outre-Manche, qui a, de mon point de vue, pris très sérieusement cet enjeu de l'alimentation et qui dit: OK pour les énergies fossiles, on se bat comme des malades là-dessus, c'est nécessaire, mais de façon presque aussi équivalente, l'autre enjeu, c'est d'arrêter de manger des animaux. Parce qu'il se base sur un constat qui est à peu près similaire au mien, sur l'ensemble des dégâts qui sont aujourd'hui trop peu pris en compte, mais qui, si on les prenait sérieusement en considération et qu'on agissait à la hauteur des risques que ça fait peser sur les limites planétaires, et donc sur notre propre avenir, on pourrait être d'une efficacité redoutable, dans la mesure où c'est un des gestes, et c'est un des propos que je soutiens, qui est un geste politique fort, pas un petit geste, mais un geste qui a des effets considérables. Si on passait rapidement d'une société carniste, comme elle est aujourd'hui, à une société beaucoup plus végétale, on aurait un effet immédiat sur les émissions, puisque le méthane et le protoxyde d'azote ont des, comme je vous l'ai dit, un pouvoir de réchauffement global très important. On permettrait de reforester et de réensauvager des zones qui, du coup, auraient aussi un pouvoir de stockage du carbone bien plus important que ne l'ont aujourd'hui, je dirais, des prairies, en tout cas surpâturées ou pâturées. On pourrait reprendre la main sur innover, justement, sur des alternatives qui créeraient aussi de l'emploi et on va dire, une autre économie, et qui sont aujourd'hui diabolisées ou en tout cas limitées dans leur capacité à offrir des alternatives bien moins impactantes pour l'environnement que ne le sont les produits carnés encore dominants. Bon, voilà, donc il y a, je crois, là, un enjeu majeur qui est un peu un angle mort des politiques actuelles, je trouve, et qui mériterait, à mon sens, d'être prise en considération comme elles le sont davantage dans d'autres pays. Je pense à l'Angleterre, bien sûr, je pense aux pays nordiques, je pense à l'Allemagne, où cette conscience végétale, tu l'appelles comme ça, est beaucoup plus avancée et où on voit déjà les effets de ce type de politique. Voilà. Donc voilà, en gros, je ne vais pas accaparer le temps de parole, et puis je vous laisserai peut-être réagir à tout ça pour qu'on enclenche le débat avec vous, mais il m'a semblé qu'aujourd'hui, au moment où nous en sommes, face à une urgence écologique dont on perçoit chacun dans notre chair les effets, il y avait là un levier qui était sous-estimé, un levier d'action, un levier d'efficacité, et puis aussi un levier de dignité, puisque je n'ai pas beaucoup parlé d'éthique, mais évidemment elle est sous-jacente à tout ça. Il est difficilement défendable aujourd'hui de considérer que tuer des animaux pour notre plaisir, alors qu'on pourrait faire autrement, est quelque chose de moralement justifiable. Voilà. Et je m'arrête là pour l'instant. Et vois un coup parce que j'ai la gorge sèche.
Oui, je veux bien. Donc moi, je pars bien entendu d'un autre angle, puisque je suis élue à la ville de Tours. Donc je ne peux pas vraiment, comment dire, de toute façon, ce n'est pas mon caractère. Mon caractère est plutôt de trouver du consensus, parce que je pense qu'on ne changera pas le monde sans les gens, et que les gens, il faut les convaincre. Et que là, je vous rejoins totalement, il faut faire de la médiation, c'est aussi pour ça qu'on est là.
Absolument.
Et que c'est extrêmement important de pouvoir discuter et puis faire avancer finalement cette conscience globale. Alors, en parlant de conscience globale, hier, on a eu un jeudi de l'écologie, puisque je vous invite, là, c'est terminé pour cette année, mais ça recommencera en octobre-novembre, sur les insectes. Sur les insectes, alors vous parliez de l'Allemagne, est-ce que les insectes sont des animaux comme la manière dont vous en parlez? Je doute qu'ils soient en tout cas dans votre prisme de pensée, mais peut-être qu'ils l'est et que je me trompe. En tout cas, 80% des insectes ont disparu de l'Allemagne en 40 ans. Donc voilà,
c'est
quand même quelque chose de notable. Et les insectes, figurez-vous, ont besoin d'espaces divers, dont les espaces de prairies. Donc moi, ce qui m'a frappé dans ce que vous avez pu dire, c'est qu'on part finalement d'une pensée globale, mais qui finit par exclure beaucoup de la nature, en fait. Parce que la nature, déjà, je pensais aux ruminants, je me disais, ben, les ruminants, il n'y a pas que les bœufs comme ruminants, en fait.
Non, bien sûr,
il y en a plein d'autres. Après, je pensais à tout ce que vous disiez quand vous disiez, ben, en fait, je le fais pêle-mêle, hein, parce que j'ai pris plein de notes, mais vous aviez, vous disiez, ben, en fait, 2% des émissions de gaz à effet de serre viennent des avions.
Et vous non, avez... c'est à peu près 4%.
En France, c'est à peu près 2%.
Ouais.
Peut-être 3% maintenant.
Ok, donc c'est encore...
C'est faible.
Ouais,
c'est
oui.
Faible. C'est faible, mais un Français sur trois n'a jamais pris l'avion dans sa vie. Donc c'est faible, mais en fait, l'écologie, c'est quoi? En tout cas, l'écologie politique, pour moi. Il n'y a pas d'écologie politique sans justice sociale. Et quand on parle d'un mode de vie, comme vous le disiez, moi, ma mère est haïtienne, ok? Elle est haïtienne. Vous êtes installée en Réunion, donc à La Réunion. Je veux dire, à un moment, est-ce que notre mode de vie est le mode de vie de toute la planète? Non. Est-ce que les gens mangent de la viande tous les jours dans les trois quarts du reste de la planète? Non. Est-ce que les gens qui vivent à La Réunion prennent l'avion comme vous pour venir en France, machin? Non. Sauf ce qu'on appelle les béquets, enfin les gens qui peuvent le faire. Est-ce que les gens qui sont pauvres ont le choix d'avoir une alimentation carnée de qualité? Non. Donc moi, j'entends bien ce que vous dites et je suis en fait d'accord avec la plupart des choses que vous avez dites. Néanmoins, moi je m'étonne de ce que j'ai pu entendre sur les petits pêcheurs ou sur les petits agriculteurs. On sait que 97% de la production mondiale vient de petits agriculteurs. Parce qu'on nous dit... En France, les irrigants sont 7% des agriculteurs. C'est ce qu'on entend tout le temps. Hein. Ils font bruit, ils font buzz, ils font des bassines, etc. Ce ne sont que 7% des agriculteurs. Une infime minorité. Donc, moi, par exemple, vous parliez des petits pêcheurs, de la pêche traditionnelle, et donc vous disiez, en fait, qu'on pêche un poisson dans un bateau traditionnel ou dans un grand chalutier qui arrache les coraux. Bon, c'est vrai que le grand chalutier va quand même faire un peu plus de dégâts, mais en un moment, un poisson est un poisson. Et moi, ma question là-dedans, c'est où est l'écologie politique, où est la justice sociale, où est le marxisme? Alors moi, je suis une écologiste qui vient de cette lignée-là, qui est d'ailleurs très anglo-saxonne. Et je me dis, mais comment peut-on comparer quelqu'un qui fait de la pêche dans la mer Rouge, là en ce moment, entre les pirates et tout ça, et qui va en effet avoir son quota de carbone, on est d'accord, qui va peut-être d'ailleurs faire du dégât sur les coraux, on est d'accord, qui va nourrir pas mal de monde, notamment parce que dans cette partie du monde, les gens mangent très carné, hein, ils mangent du lait de chèvre, ils sont à fond là-dedans. Hein. Et comment on va le comparer avec nos modes de vie? Et je ne vais même pas dire mode de vie américain, parce que là, par contre, je suis complètement d'accord avec vous. On n'arrête pas de fantasmer sur le mode de vie américain, mais alors on n'est pas mieux. Donc, voilà. Mais notre mode de vie. Donc, moi, ma première réaction à ce que vous avez dit, c'est super d'accord avec vous, mais regardons notre bout du monde avant de commencer à aller donner la leçon à ceux qui habitent à l'équateur, qui ont demandé que la Pachamama soit protégée, qui ont demandé à l'Europe de mettre de l'argent pour ne pas ouvrir des mines, et à qui l'Europe a dit « Ah ben non, nous, on ne donnera pas un centime. Donc maintenant, vous vous débrouillez pour nourrir votre population. » Et puis le marché, c'est le marché, en fait. Donc voilà, moi je suis peut-être aussi tiers-mondialiste aussi, hein, de par mes origines, mais je pense que l'écoféminisme, l'antispécisme, l'écologie et l'altermondialisme vont ensemble et on ne peut pas enlever chaque bout et le séparer les uns des autres. On parlait de petits pêcheurs, moi j'en connais un très bien, Philippe Boisneau. Il est sur la Loire, il est comme ça, il n'arrive plus à s'en sortir. Ces pêcheurs-là sont nos premiers alliés pour se battre contre Saint-Laurent-des-Eaux. Mais Saint-Laurent-des-Eaux fait un mal à la biodiversité.
Je ne sais pas ce que c'est Saint-Laurent-des-Eaux, quand même.
Ah bah c'est le grand barrage d'EDF, c'est la centrale nucléaire, on en a quatre sur la Loire, qui sont majeurs, qui aujourd'hui ont détruit tous les poissons de la Loire. Donc il y a trois lamproies qui arrivent à remonter en mode warrior. On n'a plus de saumon, on n'a plus. On n'a plus rien. Et pourtant, l'Europe vient de dire que le nucléaire est décarboné, c'est une énergie verte. Et donc on devrait tous être super contents d'avoir cette énergie verte aux portes de chez nous, et en tout cas qui nous apporte de l'électricité. Donc tout ça pour dire que, pour moi, je pense que la critique que nous faisons, elle doit s'adresser au capitalisme, elle doit s'adresser à un modèle économique qui nous amène à ce système d'exploitation du vivant dans toute sa complexité, du vivant des humains, des non-humains, de l'air, du sol et de tout ce qui fait planète finalement. Et là, pour moi, on est quelque part dans une critique qui va être globale et qui va aussi nous permettre, là je le dis, de ne pas, pour moi, de ne pas montrer du doigt obligatoirement ce que vous disiez, les écologistes vont soutenir des petits paysans, par exemple, la Confédération paysanne, pour ne citer qu'elle. Voilà. En fait, je pense que le système d'exploitation globale est tel qu'il faut des alliés. En fait, il faut des alliés, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Mais en fait, on ne peut pas se dire, quand on est dans une lutte globale contre un système économique qui broie le vivant dans son entièreté et qui est en train de nous faire exploser la planète, il faut qu'on puisse travailler avec des gens d'ailleurs qui vivent dans ce vivant. Parce que, enfin, je vous donne juste une histoire que m'a été racontée par cet entomologiste hier, donc Sébastien Moreau, qui est maître de conférence. Il disait un truc assez incroyable. Il disait, en fait, nous, les entomologistes, on fait plein de recherches sur les insectes, etc. Et on s'est rendu compte qu'on les trucide pour rien. En fait, à chaque fois, on prend un insecte, on le tue. Bon, c'est qu'un insecte. Mais en fait, quand on prend une abeille, 10 abeilles, 100 abeilles, des femelles, une abeille, j'ai appris ça d'hier, hein, donc je ne me rappellerai peut-être pas dans un an, mais une abeille femelle fait 10 abeilles femelles. Donc, les abeilles femelles, c'est la chose la plus importante qui existe pour des abeilles. Donc d'ailleurs, quand elles font leur nid, elles mettent les mâles à la sortie du nid, qui peuvent se faire bouffer si jamais quelqu'un, un insecte devient un prédateur, et les femelles sont tout autour. Et lui disait qu'en fait, quand on rajoute les chiffres aux chiffres, on se rend compte qu'on arrive à des millions d'insectes qui auraient dû naître en très peu de temps, en quelques années, si on ne les avait pas repris des milieux pour en faire des expériences, pour essayer de mieux comprendre la nature. Donc ça montre en fait toute cette interaction entre le fait de juger et en même temps, comme le disait Sébastien Moreau, ces gens-là, à une époque, on fait avancer la science, on fait avancer une connaissance du vivant qui a fait aussi qu'on s'est dit, en fait, ces insectes, il faut les protéger, il faut en faire en sorte qu'on soit conscient même de leur existence. Hein. Moi, je ne savais pas que 70% des abeilles ne sont pas des abeilles à miel. Elles sont terricoles et elles vivent dans la terre, en fait. Donc voilà, moi je voulais dire ça, je voulais...
Je vais peut-être réagir.
Je finis quand même, hein, je finis mon petit truc, je vérifie que j'ai rien oublié, hein, et puis après, bien sûr, c'est le but. Hein. Là, là, pêche artisanale, j'ai... Et ben voilà.
Très bien, merci. Alors évidemment, on peut être beaucoup de choses que vous venez de dire. Moi, je précise par ailleurs que je suis membre d'un parti politique qui s'appelle La Rêve, qui est anticapitaliste, internationaliste, écoféministe, et ainsi de suite. Donc, les idées que vous venez de déployer, elles ne sont pas du tout en contradiction avec celles que je défends par ailleurs. Et pour moi, c'est aussi une question de justice. Mais cette justice, je ne la borne pas aux frontières de notre espèce. Je pense qu'on a aussi un énorme problème, c'est que dans les représentations culturelles dominantes, on a le sentiment que les animaux, qu'ils soient des insectes par ailleurs, ou des ruminants, ou encore des poissons, sont toujours des variables d'ajustement de nos modes de vie. Et c'est vrai en Occident, comme ailleurs dans le monde, même chez d'autres cultures, et c'est quelque chose, un problème systémique mondial, et qui n'est pas né non plus avec le capitalisme, mais qui aujourd'hui montre, on va dire, ses limites, dans la mesure où on est 8 milliards sur Terre, et que si on n'arrive pas à changer nos représentations, on va définitivement finir par tout cramer, quoi. Donc je plaide effectivement pour une vision qui peut paraître un peu froide et radicale et ne tenant pas compte de ces différences culturelles qui existent et que je ne nie pas. Et je ne dis pas non plus que ce que je prétends ici s'applique inconditionnellement partout et avec la même vigueur. Évidemment, on a des situations spécifiques dans certains pays où il n'y a pas le choix que de ne pas manger d'animaux, et auquel cas, même si c'est un problème en soi, j'aimerais bien qu'ils ne le fassent pas, c'est un besoin vital, et évidemment, il faut qu'ils puissent subvenir à ce besoin vital, donc aucun problème, je veux dire, ça me paraît juste l'évidence, et c'est le cas, justement, de dénoncer ces modes, on va dire, de très prédateurs de l'industrie, mais comme, en général, de la pêche artisanale, qui n'a pas qu'un aspect vivrier, qui a un aspect bien souvent commercial, pas au bénéfice de ces populations. C'est-à-dire dans plein de pays, les petits pêcheurs sont mis au service, moi je suis bien placé pour savoir dans l'océan Indien, au service de gros pour alimenter peut-être nous ou d'autres encore, mais pas au service de ceux qui sont sur place.
Donc, à leur famille, alors que les gros pêcheurs, les chalutiers, non mais parce qu'il y a quand même une économie financiarisée.
Oui, oui, et,
non, mais,
oui donc, à laquelle la France participe énormément. Exactement. D'ailleurs, l'Espagne.
Important aussi de se dire qu'il y a des revenus qui sont redistribués, oui. Et il y a des revenus qui ne le sont pas.
Oui. Après, effectivement, j'ai quand même un prisme français. Et effectivement, j'ai un discours qui peut s'appliquer, enfin, qui s'applique aussi principalement dans nos représentations à nous. Et c'est vrai qu'au regard de ce que je vous ai dit et de cette exigence de justice interspécifique, qui me semble être indispensable si on veut dépasser justement cette propension à l'anthropocentrisme et à ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire de négliger les intérêts des autres animaux, on s'en sortira pas. Donc il faut changer ces représentations, et je pense que c'est l'alliance, parce que moi aussi je peux être pour des alliances, mais qui soient entre animalistes et écologistes, autour de ces idées de protection réelle du vivant, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, eh bien, il y a une certaine complaisance, je comprends l'acceptabilité sociale, on la vit tous les jours, il y a une certaine quand même complaisance avec certaines formes d'élevage et de pêche qui sont présentées comme vertueuses, mais qui ne le sont pas, je veux dire, objectivement parlant. Alors je comprends qu'il faille faire des compromis, je comprends qu'il faille conserver le dialogue avec certaines catégories sociales, et c'est pour un parti comme le vôtre qui prétend aussi à la gestion d'un pays, c'est très difficile d'avoir un autre discours, je nie pas, mais je pense que... Un autre regard, celui que je défends moi, est aussi important pour montrer qu'il y a des limites à cette réelle politique, à ces compromis. Et que quelque part, si on s'en extrait et qu'on considère un peu un monde idéal, et je revendique cette part d'utopie, évidemment, on serait beaucoup plus collectivement efficace à intégrer cette variable sentientiste. Et je termine sur ce plaidoyer pour une écologie sentientiste. La nécessité, et vous l'avez d'ailleurs reconnu chez ELV, hein, vous êtes chez ELV, c'est bien ça, et ben, vous avez bien reconnu cette nécessité, et c'est vrai qu'elle est incompatible avec les formes d'exploitation qu'on voit aujourd'hui, qu'elles soient d'ailleurs industrielles ou on va dire artisanales ou paysannes ou petites, peu importe. Voilà. Et donc je pense que si on arrive collectivement à se rejoindre ou faire un bout de chemin, parce que ce n'est pas du tout un plaidoyer anti-écolo, je me sens profondément écolo, mais je me sens aussi profondément animaliste, et je pense qu'il y a un levier là d'action beaucoup plus efficace encore, ensemble. J'aimerais qu'on puisse dépasser un certain nombre de visions que certains dans ces parties-là, et pas uniquement chez vous, véhiculent, et essayer d'apporter de la nuance, et d'apporter de la nuance notamment scientifique sur ce qui finalement est encore soutenable, justifiable, argumentable, et c'est pas toujours ce qu'on pense. Voilà. De la même façon, vous avez cité la Confédération paysanne, je me suis pas mal pris le bec avec Thomas Gibert, qui est son secrétaire national, depuis un certain temps déjà, parce qu'ils sont dans un déni total, justement, de cette sentience, de leur côté, et ils sont aussi dans une diabolisation de toute alternative à leur propre pratique, que je trouve très, vraiment très contre-productive. Par exemple, dans le dernier échange que nous avons eu, ils n'avaient de cesse que de diaboliser la viande de synthèse, les substituts végétaux. Oui, par exemple. La fermentation de précision, qui peuvent être, dans certains cas, accaparés par des intérêts capitalistes que vous dénoncez, et moi aussi, mais qui peuvent être aussi parfois organisés de telle sorte qu'on en ait la maîtrise collective au bénéfice d'un territoire, dans une forme de relation locale, parce que ces technologies ne sont pas aussi propriétaires, si j'ose dire, qu'elles paraissent. Et en tout cas, elles méritent en tout cas d'être mises en débat de façon apaisée, parce que même si elles peuvent paraître Frankenstein, pour certains, elles ont néanmoins des vertus écologique dans certaines configurations, notamment liées à l'énergie qu'on emploie pour les produire, qui sont extraordinaires, en tout cas théoriquement. Là, je parle de la viande de synthèse, que je ne défends pas particulièrement, parce que je ne cherche pas forcément à retrouver dans mon assiette un steak que j'ai abandonné volontairement. Donc ça, c'est... D'ailleurs, le marché, ce n'est pas celui des véganes ou des végétariens. Le marché, c'est celui des flexitariens qui hésitent et qui veulent éventuellement faire un petit peu mieux. Parce que c'est là où est la fric. Le fric, il n'est pas chez les 4% de végétariens ou de véganes. Donc, je trouve qu'il y a une tendance, là je parle de la Confédération paysanne, et j'en ai souvent discuté avec Thomas, à diaboliser a priori des solutions qui pourraient trouver, même pendant un certain temps, une complémentarité avec son élevage. Mais d'emblée, ils les combattent comme si c'était une menace immédiate à leur survie, ce qui n'est absolument pas le cas, en fait.
En fait, là je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce que je pense que s'ils les diabolisent, et c'est dommage, moi je le vois bien, mais c'est comme dans les luttes syndicales, c'est que le rapport de force est totalement inégalitaire, et que la lutte des classes, ça existe.
Carrément.
Et que donc, des gens qui sont face à des industries de multiples milliards, peut-être qu'elles peuvent devenir plus citoyennes, comme
je
vous
disais. Je ne parle pas de la viande de synthèse en l'occurrence, mais par exemple la fermentation de précision ou des boîtes comme...
Non, mais moi je parlais de la viande de... comment on l'appelle encore la viande de...
De viande de synthèse.
De synthèse. Du soja, les nuggets de choses soja, toute la nourriture qui est transformée avec des additifs. Et puis, cerise sur le gâteau, ces aliments, il y a du plastique partout pour les emballer. Et le plastique, c'est quoi?
Oui, enfin, les barquettes de viande aussi. Hein. Le plastique, il est partout. Hein. Et pas seulement dans les produits végétaux. Loin de là.
Je n'ai pas dit le contraire, je parlais des produits transformés. Je n'ai pas parlé des produits végétaux, d'ailleurs, au marché, il n'y a pas de plastique. Je parlais des produits transformés. Et dans la volonté aujourd'hui d'aller vers des produits transformés, végétarien, on a plein de produits qui sont avec des additifs, avec de l'emballage plus, il suffit d'aller au Monoprix, hein. Enfin moi je n'en vends pas. Hein. Et je vous rappelle quand même que le vivant, c'est aussi les perturbateurs endocriniens, les polluants éternels, c'est un tout quoi. Donc je pense qu'il faut qu'on ait absolument une vision globale.
Typiquement une démonstration de diabolisation pareille, type Confédération paysanne, et là je ne vous rejoins pas du tout, parce qu'aujourd'hui, la plupart des produits transformés, voire ultra-transformés, contiennent de la viande. 92, l'étude du réseau Action Climat a montré que dans les étals des supermarchés, suremballés et autres aussi, les produits transformés, l'offre de produits transformés ou transformés contenait à 92% de la viande. Des pizzas, c'est des nuggets.
Sauf qu'on est en train de parler d'agriculture paysanne et donc d'avoir locavore et donc de pouvoir acheter localement, là, au marché ou à la Biocoop, là, pas loin, sont sa nourriture qui n'est pas emballée. Alors bien sûr,
oui, si non, mais là, allez, bah, le propos c'est pas l'emballage.
Donc, non, mais donc le propos de la Confédération paysanne, c'est bien ça. C'est aussi le lien qu'on peut avoir, et c'est un lien affectif aussi. C'est un lien affectif avec la production. Oui, et je pense qu'il faut pas la sous-estimer bah, dans
tout cas,
le changement.
En tout cas, le fait de refuser finalement qu'émergent des alternatives qui ont des vertus écologiques supérieures me semble être un mauvais calcul.
Non mais...
et le fait de prendre position de façon aussi catégorique, voire agressive, pour éviter, et ils ont d'ailleurs obtenu gain de cause, puisque c'est le gouvernement qui a pris toute une série de mesures pour éviter que, justement, ces alternatives voient le jour. Et je ne parle pas de la viande de synthèse, qui est encore un autre problème. Mais c'est quand même fou, quoi. Je veux dire, on est dans un truc monomaniaque, là, et ils vont jusqu'à des actions extrêmement violentes pour imposer une vision qui est celle d'un système de domination sur les animaux qui ne veut pas voir cesser.
La Confédération paysanne,
oui.
Les actions violentes.
Bon, bah, bien sûr.
De toute façon, c'est pas grave, hein, on va...
On va en parler de quelles alternatives.
Ah, pardon. Les alternatives aux produits carnés, la plus simple, c'est des produits bruts, tout simplement, que vous allez acheter au marché et que vous cuisinez. C'est ce que je fais à 100%. Moi, j'achète rien d'industriel. Mais pour la transition alimentaire, et par rapport à, je dirais, à la logique de changement, certaines personnes vont aller acheter des substituts végétaux à ces produits carnés. Ça peut être des steaks de soja, plus ou moins transformés, parce qu'il y a une gamme très large de produits. Ça peut être aussi des nouvelles technologies qui arrivent aujourd'hui sur le marché, qui sont plus ou moins abouties selon leur nature. Par exemple, ce qu'on appelle la fermentation de précision, c'est de la culture de bactéries. C'est d'ailleurs quelque chose d'assez traditionnel qui se fait depuis la nuit des temps, là aussi, mais qui est amélioré pour tirer parti d'un certain nombre de substances, notamment des champignons, pour produire de la texture qui peut être inséré dans des aliments et qui a on va dire, une certaine similitude avec de la viande. Voilà. Donc c'est des technologies qui permettent aujourd'hui de produire des protéines sans tuer d'animaux. Et puis le truc le plus ultime, dont on n'a pas vraiment débattu, c'est la viande de synthèse. Là, c'est de faire de la biopsie sur un animal, de prendre des tissus de cet animal et d'en faire de la viande identique en la cultivant dans un milieu qui est propice justement à ce que ça grandisse. Voilà. Et on rajoute des trucs dedans qui ne sont pas forcément géniaux, mais j'en sais rien. Je ne connais pas vraiment, puisque pour l'instant c'est assez expérimental et ce n'est pas commercialisé. Mais sur certains... Non, c'est vraiment très marginal. Il n'y a pas encore d'autorisation de mise sur le marché. C'était à Singapour, il y a eu dans un restaurant une autorisation pour des nuggets de poulet. Et puis je crois en Israël aussi. Mais globalement, ce n'est pas du tout commercialisé. Mais les bénéfices écologiques de ces produits, indépendamment de la façon dont ils sont produits, des questions au capitalisme ou pas que ça pose, elles sont vraiment avérées sur les émissions de gaz à effet de serre, sur les ressources en eau, sur l'accaparement de l'espace, sur les pollutions des milieux. C'est vraiment, je vais dire même génial. Après, qui les détient ? Est-ce que c'est souhaitable ? C'est un autre débat. Mais en tout cas, il n'y a aucune cruauté et aucune mort animale derrière, ce qui a quand même aussi une valeur.
J'ai une question sur... Tout à l'heure, vous parliez de... Déjà, merci à tous les deux, c'est très riche et très intéressant. Des exemples scandinaves, justement, qui consommeraient moins de viande, est-ce qu'on a des idées de pourcentage d'exemples européens,
alors,
où est-ce qu'on se situe ?
Alors nous, les Français, on est à 85 kg de viande par an. C'est deux fois plus que la moyenne mondiale. Et en fait, je n'ai pas les chiffres de chaque pays, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que, par exemple, notre programme national nutrition santé, le fameux PNNS, qui sera révisé prochainement, formule des recommandations. Donc ces recommandations nutritionnelles, elles sont fléchées, on va dire, santé, ou en tout cas équilibre alimentaire plutôt qu'environnement, jusqu'à présent. Et l'enjeu, c'est d'intégrer maintenant des variables environnementales, parce qu'on sait qu'évidemment, c'est tout à fait lié. Et donc, il y a des ONG, notamment le réseau Action Climat, mais je pense que vous êtes dans la boucle aussi, qui poussent pour qu'évidemment, on soit plus offensif sur ces questions. Mais globalement, aujourd'hui, le programme national nutrition santé, il préconise de manger 450 grammes de viande rouge par semaine. Il exclut le poulet, il exclut le poisson, il exclut les produits laitiers, pour lesquels il a aussi des recommandations de grammage, on va dire, par semaine. Donc tout ça, mis bout à bout, je ne sais pas combien ça fait, mais c'est beaucoup. Dans les pays scandinaves aujourd'hui, alors d'ailleurs ça c'est la recommandation, hein, pour voilà, mais c'est beaucoup, mais les Français, aujourd'hui, ils sont à 1,6 kg à 2 kg par semaine.
De viande rouge ?
De viande globale,
ah oui.
De produits d'origine animale. Donc on est déjà loin de la recommandation, qui est déjà trop élevée.
Mais la recommandation, elle est que sur la viande rouge, 450
grammes. Oui, 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 oui. Mais elle exclut, en plus, elle exclut tout le reste. Donc, bon, bref. Et les pays scandinaves, aujourd'hui, ils sont sur du 300 grammes par semaine, toute viande inclue. Enfin, tout produit d'origine animale inclus. Vous voyez le gap, quand même.
Non, pas les yaourts. Parce qu'ils mangent des yaourts comme des dindes. J'ai vécu un an en Suède. Je peux vous dire qu'ils mangent des yaourts.
Alors,
ça,
c'était le conseil nordique.
Et du poisson.
C'est le conseil nordique.
Ah oui, ils mangent ça à midi, le matin.
Alors, c'est toute viande confondue, peut-être. Toute viande confondue. Mais bon, c'est déjà beaucoup plus. Et certaines. Alors, les études aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps dans Nature, qui fait un peu référence, qui a. D'une équipe qui s'est consacrée justement à. Au pourcentage de réduction qu'il faudrait enclencher au niveau mondial pour rester en dessous des limites planétaires à ne pas, on va dire, déstabiliser. Et la préconisation de cette équipe de scientifiques, c'était d'aller au minimum à 50%, mais préférablement à 90%. Donc c'est de réduire drastiquement la consommation carnée jusqu'à 90% des niveaux actuels, moyenne mondiale. Voilà. Et ce qu'on sait par ailleurs, ce que je trouve un chiffre qui est assez hallucinant, parce qu'on parle souvent de sécurité alimentaire aussi. Oui, mais il faut bien qu'on se nourrisse, tatati, tatata. À protéines équivalentes, si on substituait... il y a une étude qui a été faite aux États-Unis là-dessus, mais elle a aussi eu d'autres au niveau mondial qui sont un peu plus détaillées, mais j'ai celle-là en tête. À protéines équivalentes, c'est-à-dire pour satisfaire nos besoins, si on remplaçait l'ensemble des animaux consommés aux États-Unis par des équivalents végétaux nutritionnellement donc équivalents, on nourrirait le double d'Américains. C'est ouf, hein. Et donc, si vous rapportez ça à la planète, c'est pas un problème de souveraineté, enfin de possibilité de nourrir. On en a la possibilité, sauf qu'on en gaspille énormément, sans parler du gaspillage alimentaire qui est encore un autre problème. Mais la question, justement...
Mais c'est un problème de viande, hein.
Aussi, oui. Ouais.
Ah ben non, mais dans les cantines, dis, hein, dans les cantines... la viande est jetée.
Mais ce qui est encore plus dramatique, on a fait naître des animaux, on les a fait vivre, on les a massacrés en vain. Je veux dire, c'est une faillite morale, mais totale. Enfin, c'est quand on voit évidemment, comme vous dites, le volume de gaspillage de viande, et que c'est des vies derrière. Si on considère l'intérêt de ces animaux à vivre, leur sentience, leur souffrance, la vie de misère qu'ils ont eue, et que nous, on balance tout simplement parce qu'on n'avait plus faim, mais c'est quelque chose d'assez dramatique. C'est hallucinamment. Moi, je trouve ça dramatique.
Quand ils ont été tués, en plus,
bien d'être réduits. Bon, peut-être, mais c'est pas la seule raison. En tout cas, c'est quelque chose que je trouve inadmissible. Et c'est vrai que c'est la question un peu que je voulais vous poser. Comment vous, en tant qu'élu, parce que l'acceptabilité sociale de ces questions est faible encore aujourd'hui, comment faire reconnaître l'intérêt de l'animal finalement dans la boucle? Comment faire entendre que c'est quelque chose qui est dispensable? Et comment faire prendre conscience que ces êtres vivants ont tout autant le droit que nous de vivre paisiblement leur vie, et comment l'intégrer dans un programme politique, parce que c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que cette acceptabilité, elle est quand même vachement, vachement faible. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Toc, 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 toc.